C'est assez fascinant. Dans le christianisme, il y a une espèce d'auto-cohérence. L'ensemble des mystères se répondent les uns les autres. Et au fond, dans la foi, ce qu'on peut faire, c'est d'aller d'un mystère à l'autre. Alors d'abord, le don de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Qui est Dieu? Comment puis-je le connaître? Et qu'est-ce qu'il fait pour nous? Eh bien, Dieu est l'être d'abord. Dieu est être, esprit et amour. Ces trois termes que vous trouvez dans l'écriture, dans le... je ne sais pas si vous me voyez sans doute mieux quand je suis debout, mais non, c'est plus confortable assis. Dieu est l'être, très important dans la Genèse, je suis celui qui suis. Dieu est esprit, il cherche les adorateurs en esprit en vérité dans l'évangile de Saint Jean, ce que dit notre Seigneur, et Dieu est amour, donc la grande révélation. Alors ces trois aspects, normalement la raison, en cahotant un peu, en tâtonnant, les approches plus ou moins, mais avec des erreurs, avec des difficultés, et les plus grands sages de l'Antiquité ont un peu approché ces choses-là. Aristote, par exemple, dans son livre des métaphysiques, vers la fin, est arrivé à l'idée que Dieu était la joie. Dieu est la joie subsistante, Dieu vivant, éternel et parfait, est toujours en train de penser, et donc comme la pensée c'est l'acte de l'esprit, il est heureux parce qu'il saisit sa propre plénitude. Oui. Donc c'est impressionnant, je peux difficilement lire ce passage du livre 12 des métaphysiques sans être ému, parce que ce païen est arrivé à ça, et puis Platon aussi a de très belles choses. Mais c'est évidemment grâce à la foi que nous éclaircissons tout ça, ces choses que la raison arrive quand même à approcher, c'est la foi qui les précise, spécialement les grandes définitions, par exemple du Concile Vatican I, où l'Église, face au rationalisme, a été obligée de rappeler des choses que le peuple chrétien possédait paisiblement, mais qui étaient attaquées par les rationalistes, et qu'ils sont beaucoup aujourd'hui dans le renouveau de l'athéisme. Dans la revue Celeste Sapientiae, excellente revue à laquelle j'espère que vous vous abonnerez, sauf que c'est un prix absolument dérisoire, que je ne vous dis pas, tellement c'est bas. Il y a un article par Morero, enfin il est devenu monseigneur entre-temps, sur certains aspects de l'athéisme moderne, c'est intéressant d'être averti là-dessus. Donc à Vatican I, l'Église a rappelé que Dieu était un seul, qu'il y avait un seul Dieu, distinct du monde, créateur et seigneur du ciel et de la terre, tout puissant, éternel, immense, incompréhensible, etc. Donc développe tous ces attributs divins, absolument simple et immuable. Et rien que ça, si vous voulez, sur des vérités naturelles. L'existence de Dieu est une vérité naturelle. Moi, j'ai fait ma thèse de philo là-dessus. J'ai des gros yeux. Sur quoi vous avez fait une thèse de philo, la preuve de Dieu? Bon, ben, c'est des choses naturelles, mais c'est magnifique. Déjà, naturellement, on peut contempler, on peut passer sa vie, ce qu'écrivait l'abbé Berthaud à une de ses filles. Souvenez-vous que vous êtes dominicaine, vouée avant tout, toujours à Dieu, à penser à Dieu, etc. Et ça nous met évidemment dans une ambiance, ça nous met dans le réel. Vous voyez, faites penser à Dieu, c'est pas un truc pour se shooter quand on déprime, enfin, c'est aussi bon pour ça, mais le but, là, d'abord, c'est vrai. Et quand je pense à Dieu, je me constitue moi-même parce que je suis créé par Dieu. Bon, alors maintenant, ça, c'est ce que la raison naturelle peut atteindre, plus ou moins difficilement, mais enfin quand même. Et alors, là, le mystère de Dieu nous est révélé parce que Dieu a daigné, dans l'Ancien et surtout dans le Nouveau Testament, dire qui il était. Vous voyez, il y a trois personnes en une seule nature. Et donc ça, c'est une chose que seule la foi peut atteindre. Il y a deux éléments principaux dans la foi, dans la structure de la foi, deux objets, si vous voulez, de réalité, c'est que Dieu est Trinité et que Dieu s'est incarné. Alors tout le reste, tout le credo est ordonné autour de ça. Retenez bien ça dans le pois chiche qui vous sert de cerveau, ça sera déjà que vous aurez gagné votre matinée. Je vous admire, vous étiez presque tous à la messe, donc j'avais fait un jugement témoignage, je dis les Versaillais, ils vont arriver vers 9h30. Pas du tout, ils étaient là, formidable. Alors donc c'est très bien, la Trinité et l'Incarnation. Et c'est formidable, c'est les deux points, si vous voulez, qui nous contredistinguent d'une religion importante actuellement dans nos pays, l'islam. Bon, donc toute la foi de l'Église, dit saint Thomas, est fondée sur la révélation faite aux apôtres de la foi en l'unité de la Trinité, qui était préparée dans l'Ancien Testament. Dans certains passages, on le voit, l'apparition des trois anges aux chaînes de Mambré, c'est tout à fait magnifique. Il a vu trois, il a adoré un, etc. Mais quand même, c'est notre Seigneur lui-même qui, se présentant comme le Fils de Dieu, distinct de Dieu, et pourtant Dieu, et parlant de l'Esprit, a révélé ce mystère. Alors, pour s'approcher de ce mystère qui nous correspond, parce que c'est une réalité, on dit, ah, la Trinité, c'est difficile. Bah, heureusement, moi, c'est intéressant, quoi, ce qui est facile et quelquefois un peu casse-pied. Mais là, non seulement c'est difficile, mais c'est surtout, c'est vrai. Et notre esprit est fait pour ça. Alors, le moyen le moins inapproprié pour s'approcher de la Trinité, c'est l'esprit humain. L'image de Dieu, c'est l'esprit de l'homme. Et l'ange aussi. Mais le corps de l'homme n'est pas directement l'image. Maintenant, il y a tout un baratin, la famille, image de Dieu. Non, la famille est le plus haut vestige, le mariage est le plus haut vestige, si vous voulez, de l'empreinte de Dieu dans le monde. Mais ce n'est pas une image. L'image ne peut être que dans l'esprit. parce que l'esprit se possède lui-même, il y a une mémoire, je suis moi-même, je me pense, si vous voulez, je pense quelque chose, il y a quelque chose qui sort de moi, hein, qu'on appelle le verbe ou l'idée, et puis il y a un poids qui procède de ça, qui est l'amour, hein, où je pense à quelqu'un que j'aime, et du coup je suis marqué en moi-même, et je penche vers lui, il n'y a pas de mot pour traduire ça, une sigillation, si vous voulez, qui me fait pencher vers lui. Donc il y a trois aspects, il y a moi, il y a la connaissance que j'ai des choses, et il y a l'amour qui en découle. Et ça, c'est ce que dit Saint Augustin établit dans son grand livre de la Trinité, et Saint Thomas le reprend, il dit, si ça ne marche pas, rien ne marche. Donc c'est très important, c'est dommage qu'on ait un peu oublié ça aujourd'hui, l'homme est image de Dieu par l'esprit. Donc dignité, si vous voulez, de l'esprit, dignité de la pensée. Et c'est quelque chose aussi de très beau de penser que justement Dieu nous a donné ça pour aller vers lui, et la Trinité, au fond, est ce à quoi nous aspirons, parce que dans la Trinité, il y a à la fois une pleine communion, puisque les trois sont Dieu, vous voulez, mais en même temps, ils sont distincts. Donc il y a une pleine distinction dans la relation mutuelle, un peu ce qui est l'idéal de l'amour ou des amitiés ici-bas, et qui échoue toujours, plus ou moins. On n'arrive jamais parce qu'on ne peut pas pénétrer totalement l'autre, et c'est bien, il faut respecter le jardin secret. Hein, les gens qui sont mariés le savent, il y a quelque chose qui appartient à Dieu, qui ne nous appartient pas. Mais dans la Trinité, le Père passe totalement dans le Fils, et le Père et le Fils totalement dans l'Esprit, et l'Esprit retourne dans le Père et le Fils. Donc je vous conseille de prendre connaissance ou de redire la belle prière d'Élisabeth de la Trinité qui a été envoyée au XXe siècle pour rappeler cette réalité fondamentale de la Trinité en des termes accessibles à tous. Elle a été très bien formée par un père dominique, hein, qui s'appelait Valet, et elle exprime les choses très bien, de façon très paulinienne, et c'est très émouvant, voilà, de lire ce qu'elle a écrit, et ça doit faire partie de notre vie. Vous voyez, la Trinité, c'est quand même pas un truc décoratif pour la fin du cours de théologie pour les bons élèves, hein, au séminaire. Hein. C'est nous, c'est là ce que dit le père Chardon, repris par le père Garrigou-Lagrange. Le père Chardon, c'est un vieux dominicain poussiéreux du XVIIe siècle, mais qui était très génial. Il dit, c'est la vérité, nous allons maintenant parler de cette vérité la plus importante du christianisme, l'habitation de la Trinité dans notre cœur. Donc c'est pour tout le monde. Donc dans cette récollection, voilà, on va un peu penser à ça. Ça sert à quoi? Comme je vous ai dit, ça sert à rien. La Trinité n'est pas utile, mais tant mieux. Il y a cette chose utile ici-bas pour nous casser les pieds. La Trinité est. Et elle est esprit, et elle est amour. Donc c'est fantastique, quoi. Voilà, alors maintenant, comment puis-je connaître Dieu? Donc il y a trois voies. Au sens des vox, enfin de trois chemins, la raison, la conscience, la révélation. Donc c'est important de rappeler que la raison marche vers Dieu. C'est un chemin, Saint Thomas appelle ça des... Oui, il y a trois voies au sens de parole, si vous voulez, la parole de la raison, la parole de la conscience, la parole de la révélation. Mais dans la parole de la raison, il y a ce que Saint Thomas appelle les vies, les chemins, pour marcher vers Dieu, et on atteint bien, en effet, par un acte de la pensée humaine, difficile mais réel, et que la plupart des hommes peuvent faire, le fait qu'il y a un créateur distinct du monde. Ça, il faut le maintenir, parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance à imaginer que l'existence de Dieu relève purement et simplement de la foi. Alors ça, c'est du fidéisme. Donc un dominicain, quand il entend le mot fidéisme, il sort sa kalachnikov, enfin s'il en a une, sinon c'est... voilà. Parce que le fidéisme, c'est très mal, c'est pas une bonne réponse au rationalisme. C'est l'erreur opposée, si vous voulez. Le rationaliste dit tout est connaissable par la raison, et le fidéiste dit au fond, rien n'est connaissable par la raison. C'est deux erreurs, et on est mauvais. Donc si on veut être efficace dans le combat, ce qui est comme sympathique, enfin ça stimule un petit peu, eh bien, ne soyons pas fidéistes. Donc c'est dans le livre de la sagesse, c'est dans Saint Paul, et c'est dans l'enseignement de l'Église. Ils sont vains par nature, tous les hommes, en qui se trouve l'ignorance de Dieu, qui en partant des biens visibles, dit le livre de la sagesse, n'ont pas été capables de reconnaître celui qui est. Et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. Et il y a un grand argument qu'il y a un monde qui visiblement présente des qualités d'intelligence qu'il n'a pas en lui-même, qu'il dépasse largement, et donc il y a un auteur intelligent qui l'a fait. Donc le livre de la sagesse est repris par saint Paul, dans un passage très important de l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 19 et suivant, où saint Paul reprend cette idée-là. Ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Il argumente contre les païens qui ne donnent pas un vrai culte à Dieu. Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. Et Jean-Paul II, en reprenant dans Fides et Ratio ce terme, dit que cet important texte paulinien affirme la capacité métaphysique de l'homme. Je crois que c'est un des enjeux du combat contre les mauvais aspects de la modernité, c'est de rappeler que l'homme est un être qui est capable de la métaphysique. Bon, en tâtonnant et de façon un peu grossière, mais s'il n'y a pas de métaphysique, ben c'est la cata, quoi. On n'arrive rien à... Même la morale, si vous voulez, c'est pour ça que Veritatis Splendor est une belle encyclique qui rappelle le fondement métaphysique de la morale. S'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de morale non plus. Pourquoi agir comme ci ou comme ça, si homme, femme, c'est aucune importance, tout ça, si l'éducation, si l'homme n'est pas un être progressif et éducatif ou éducable, difficilement, mais enfin quand même, et ben pourquoi y a-t-il... Voyez, si les choses n'ont pas de nature, il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait aucune loi en physique qui nous permettait de percer le mystère naturel des choses. On sait qu'il y a des lois parce que les choses sont quelque chose. Voilà. Il y a une sagesse. Voilà. Donc c'est important de se rappeler ça. Ça, c'est la voie de la raison. Et puis, il y a une autre voie qui est, je dirais, aussi très accessible, qui est la voie de la conscience. Il y a ce que le philosophe chrétien personnaliste Max Scheler appelait le juge infini. Ça, vous pouvez trouver une traduction du juge infini dans les romans de Dostoïevski, par exemple. Il y a en nous un juge infini. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui domine tout, quoi. Et on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Même si on est le pire des truands, il y a à la limite quelques trucs qu'on ne fera pas, quoi. Voilà. Parce qu'on pense que c'est l'expression d'une chose qui nous dépasse totalement. Et alors pour saint Thomas, c'est le fait que la loi éternelle de Dieu est gravée dans le cœur des hommes par la loi naturelle, qui est comme la capacité que nous avons de saisir cette loi éternelle. Et donc, c'est une voie importante aussi, parce que Dieu est inévitable, si vous voulez. Alors, quand on le repousse, soit on va se mettre dans la révolte et on va l'attaquer, alors on sera antithéisme, on ne sera pas tellement athée, soit on va s'occuper d'autre chose, dans le divertissement. On sera agnostique, on dira on ne sait pas, mais il est difficile à contourner. Il ne prend pas toute la place, parce qu'on existe quand même. C'est un peu étonnant, mais... Comment pouvons-nous exister alors que Dieu est infini, hein? Alors, nous, les Occidentaux, nous, on existe. Dieu, peut-être, on lui permet d'exister un petit peu le dimanche pendant une heure et demie, quoi. Enfin, pour ceux qui vont à une messe un peu longue. Mais les Orientaux, c'est le contraire. Ils disent, comment l'homme existe-t-il, quoi? Pour les Hindous, ils disent, il y a Dieu, quoi. Je me souviens d'un jésuite, hein, que j'ai eu l'honneur d'être élève des jésuites, pas très longtemps, mais suffisamment, et qui revenait d'Inde. Alors, il avait une tête d'Hindou, bien que ce soit quelqu'un de l'aristocratie française. Et à l'époque, j'étais agnostique quand il nous a dit ça, ça m'avait frappé. Il m'a dit, vous savez, je reviens d'Inde. Il avait passé pas combien d'années là-bas. Il avait dit, ici, il n'y a pas assez de Dieu, et là-bas, il y en a trop. C'est vrai que c'était assez charmant. Enfin, les jésuites aussi, ils ont toujours... Hein, il y a quand même une classe. Hein. Même moderne, le jésuite est jésuite, quand même. Non, enfin, ça, je sais pas s'il faudra le mettre sur tous les sites. Parce que je suis bien avec un certain nombre de jésuites. Ça va. Bon, c'est histoire d'entretenir l'affection, quoi. Quand les dominicains arrêteront de critiquer les jésuites et vice-versa, ben, c'est ce qui se passe d'ailleurs maintenant. Il n'y a plus de controverse, finalement. Parce que tout le monde, si on est dans le théologiquement correct ou incorrect, bon, du coup, il y a moins de bagarres comme il y avait autrefois. Mais bon, ces bagarres montrent une richesse de l'Église aussi. L'Église, c'est pas le Parti communiste avec les dernières directives du soviet suprême, et tout le monde pense la même chose dans le détail, hein. Dans l'Église, il y a des jésuites et des dominicains, par exemple, hein. Il y a aussi des franciscains, etc. Bon. Et c'est très bien. Mais à mon avis, c'est une des preuves de la divinité de l'Église. C'est que c'est pas un truc, c'est pas idéologique, quoi. Ça correspond à la richesse des hommes. Voilà. Donc, le juge infini, c'est la conscience, hein. Et cette conscience, en fait, traduit la loi éternelle quand on chante les psaumes accomplis, hein, le dimanche et tous les jours pour les bénédictins. On dit « Votre lumière est manifestée sur nous, et elle est gravée en nous. » La lumière de votre face, ben, c'est la pensée de Dieu qui se grave en nous par la loi naturelle. Et donc c'est un chemin vers Dieu aussi. Oui. Mais alors tout ça, la voie de la raison et la voie de la conscience, hein, en fait, sont un peu... La voie de la raison est un peu irréelle, c'est-à-dire que tout le monde arrive plus ou moins à l'idée qu'il y a un créateur du monde. La voix de la conscience est aussi réelle, mais on ne sait pas trop qui parle. Si vous voulez, on a un peu du mal à savoir qui parle. Il y a bien quelque chose qui parle. Et alors, c'est la révélation qui met de l'ordre dans tout ça. Et c'est une idée de Romano Guardini, un théologien du XXe siècle, qui était un des pères spirituels de Joseph Ratzinger. L'unique parole de la révélation doit venir au milieu de celle mille fois répétée des choses. C'est-à-dire la voix de la raison qui nous fait monter vers Dieu. C'est elle qui doit apporter les distinctions nécessaires et la clarté. Et donc, que Dieu ait voulu nous parler, non seulement intérieurement et sans forme précise, ça c'est la voix de la conscience. C'est très important, parce que vous voyez, pour l'apostolat, qu'à la dernière minute, il faut penser que Dieu parle aux gens. Et donc, il ne faut pas se désespérer, non, c'est foutu, il est endurci, tout bon. Et donc, plus on est endurci, plus c'est miraculeux qu'il y ait un retour vers la fin. Mais quand même, toujours Dieu parle. Et il parle comme Dieu et en faveur du Christ et non pas en faveur des Mormons, quoi. C'est pour ça que l'apostolat et tout ça, faut pas non plus trop croire que on est sur le même pied. C'est pas du tout. Quand vous parlez à un gars que vous voulez qu'on va essayer d'éclairer pour l'amener à la vérité, le Saint-Esprit vous aide. Quand un témoin de Jéhovah cherche à vous convaincre, en principe, Saint-Esprit l'aide pas, quoi. Ou si vous dites ça, vous avez disjoncté là. Mais il y en a qui ont disjoncté, malheureusement. S'imagine que tout est un peu sans. Non, c'est pas vrai. Donc nous, on est quand même beaucoup plus forts. Il ne faut pas non plus toujours pleurnicher, nous les cathos, dans notre coin, on ne nous aime pas, bon. On ne nous aime pas, mais le Saint-Esprit nous aime, enfin, en tant que cathos, quoi. Donc attention, pas tous les aspects. Bon, donc Dieu a voulu nous parler non seulement intérieurement et sans forme précise, d'avoir de la conscience, en plus de la voix des choses, mais au contraire sous une forme déterminée, c'est l'Évangile, non seulement à travers les mille formes bariolées du monde, mais sous la forme apparemment arbitraire d'une venue historique, voilà qui est difficile à comprendre et plus encore à admettre. C'est le scandale du christianisme, c'est l'incarnation. On en parlera à la troisième instruction. Donc il y a quelque chose, il y a quand même une voie qui nous mène vers Dieu. Le père Molinier appelle ça l'intuition du cœur. La lumière du sens commun, la lumière de la foi et l'émotion du Saint-Esprit. Donc voilà, il y a tout ça qui nous pousse, hein, qui reprend les trois éléments que je vous ai donnés à un niveau un peu au-dessus. Le sens commun, la foi et Saint-Esprit, qu'il ne faut pas oublier. Hein. Et voilà, ça fait une intuition du cœur qui nous met au contact du mystère de Dieu. Qui renouvelle notre contact avec le mystère de Dieu. Alors, donc Dieu, donc qui est Dieu, on l'a dit, être, esprit, amour, trinité. Je peux le connaître par la raison, par la conscience et surtout par la révélation. Hein, qui reprend ces choses-là, mais sans s'opposer à elles, bien sûr. C'est très important, l'Église, à la suite de saint Thomas, ne cesse de répéter que la grâce n'enlève pas la nature, mais elle la soigne, parce qu'elle est blessée, on va le voir cet après-midi. Elle n'enlève pas la nature, mais elle la soigne, et puis aussi, elle lui donne plus, si vous voulez. La foi nous permet d'aller plus loin dans le réel. Je crois que c'est très important de voir la foi comme ça. C'est une capacité d'aller plus loin dans l'être, vers la source de l'être qui est Dieu, et en voyant son visage, voilà, en entendant parler de lui, après au ciel en voyant son visage. Mais c'est dans l'être, c'est dans la réalité. Alors que fait Dieu? Ça c'est important, je pense, comme élément. Vous voyez, l'élément de la Dieu est celui qui se communique. Il fait la création et après il donne la grâce. Et il le fait justement par une surabondance. Vous voyez, en fait, il n'est pas obligé de faire la création. Et l'Église a été obligée de le rappeler à Vatican I. Dieu a tout créé par un très libre conseil. Il n'était pas obligé de créer. Quand vous lisez Teilhard de Chardin, on a l'impression que la création est nécessaire. Oui. Enfin, c'est un peu difficile parce que c'est assez confus quand même. Hein, mais il y a un côté poétique assez profond, assez saisissant. Et puis, comme homme, c'était quelqu'un d'assez impressionnant au point de vue spirituel. Mais à mon avis, métaphysiquement, il était complètement en dehors du coup. Quoi. C'est vraiment un esprit très faux. Quoi. Très faux, mais assez génial. Et alors, quand on le lit, on se dit, ben, voilà, il y a comme la matière implore de Dieu d'être créée. Et puis, il y a une sorte de dynamique inéluctable qui arrive vers le point oméga. C'est Dieu. Non. Parce que si vous voulez, dans cette perspective, alors évidemment, quand on l'interrogeait de plus près, il se défendait de tomber dans... Mais en fait, c'est un peu une gnose. Hein. Dans la gnose, si vous voulez, il y a une sorte de sortie nécessaire. Dieu sort de lui-même. Il y a ce qu'on appelle des éons, E-O-N, qui sortent de Dieu, puis qui font le monde et machin, etc. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui est comme si Dieu était tenu de se compléter par des êtres en dehors de lui. Alors, c'est tout à fait faux. Quand Dieu fait la création, il fait advenir des choses dans l'être, comme ça. Parce que c'est beau, parce que c'est bon, parce que pour leur faire du bien, mais pas à lui, il n'a pas besoin de se faire du bien. Ah, c'est évidemment un grand mystère, hein, la création. Un très grand mystère. Hein. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il rappelle à ce propos une phrase de saint Thomas, c'est la clé de l'amour qui a ouvert sa main pour produire les créatures. C'est très beau. Dieu a créé par amour pour que les créatures participent à quelque chose de lui. Alors les cailloux et tout ça, les montagnes à l'être, les plantes à la vie, et les animaux à la connaissance sensible. Et les hommes à une connaissance supérieure, les hommes et les anges. Mais on participe à des attributs divins, à notre façon. Oui. Et donc, lorsque Dieu fait la création, il n'y a pas plus d'être au singulier, il y a plus d'être avec un S. Il y a des gens qui participent à la richesse de Dieu tout en étant distincts d'eux. Et c'est un grand mystère au fond, hein. Au fond, je crois que l'adoration, c'est ça. C'est Chesterton qui dit dans Saint Thomas du Créateur. Alors, les Anglais, les anglophones pourront lire ça en anglais. C'est un beau bouquin, mais en français, c'est déjà pas mal. Et il dit, au fond, Saint Thomas est vraiment l'homme de la création. Quoi. Il dit, mais il y a une création, c'est magnifique. Pourquoi il y a une création? C'est beau, quoi. C'est... Dieu pouvait ne pas faire de création, il serait resté quand même très bien chaud chez lui, il n'a pas besoin de faire une création, mais il l'a faite. Hein, et au fond, l'adoration, c'est se mettre dans cette réalité-là. Dieu existe infiniment, et j'existe finiment. Mais j'existe quand même, attention. Quand on dit, oui, ah, je suis rien, je suis lamentable, je suis une bouse et tout, je suis minable et tout, bon, c'est psychologique ça, si vous voulez, mais ontologiquement, t'es bien quand même quelque chose. Hein. Quand vous lisez l'imitation de Jésus-Christ, parfois vous avez l'impression que les types, ils n'existent pas, quoi. Parce qu'on est tellement minable par rapport à Dieu, bon... D'accord, tout ça, on en parlera avec le péché. Mais en fait, on est quand même là, quoi. Hein, vous avez la preuve. Enfin, c'est le problème qu'on a à résoudre, quoi. Dieu pouvait pas téléphoner, allô, est-ce que tu souhaites être créé? Oui, il y avait un problème technique, là, donc... Mais c'est drôle, moi j'ai souvent pensé à ça, il pouvait pas téléphoner. C'est pas que c'est une limite, c'est que c'est impossible. Mais, donc, si vous voulez, maintenant qu'on a l'aide, qu'est-ce qu'on en fait, les gars? Hein, t'es là, t'existes, bon, ah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Voilà, ben c'est le problème de notre vie. Et ben, on va dans le sens de ce qui nous est donné. Ou bien non. Alors, on verra ça tout à l'heure. Bon. Donc, si vous voulez, Dieu crée. Alors, en créant, ce qui est intéressant, c'est qu'en créant, Dieu manifeste évidemment sa puissance. Ça frappe beaucoup les modernes, enfin certains modernes, les classiques, disons, modernes classiques, un peu avant la postmodernité. Et puis l'islam. Dieu est puissant. Pour sortir des choses du néant, ben, faut être baraque. Hein, ça, c'est sûr. Même avec un grand levier... Archimède et les autres n'auraient jamais réussi à sortir l'univers du néant. Bon, hein. À tel point que pour Aristote et les autres, l'univers était éternel, la matière était éternelle. Quoi. Enfin, ils pensaient bien qu'il y avait Dieu, mais la matière est là. Quoi. Voilà, elle est là. Bon. Et par un, c'est la Bible qui nous apprend enfin, vraiment que la matière a commencé au moment où Dieu a fait la création. Et donc, personne, c'est une puissance infinie. Bon, ça, on est d'accord. Et c'est très bien de dire ça, c'est très bien d'y penser. Un Dieu est très puissant. Mais en même temps, Dieu est sage. Mais dans le christianisme, c'est un des grands thèmes de Ratzinger dans ses différents Benoît XVI maintenant. Le logos, c'est Dieu a fait le monde par le logos. Au commencement était le principe qui est le logos. Ça c'est le début de la Genèse, début de Saint Jean. Au commencement était le logos, le verbe. C'est-à-dire la pensée. Dieu est sage. Et il fait les choses, quand vous lisez le récit de la Genèse, qui est un peu imagé, qui est historique mais imagé, il fait les choses avec des natures. Il fait la matière, il fait les plantes, il fait les animaux, il fait l'homme, il fait les anges, et tout. Voilà. Et les choses ont une nature. C'est que tout n'est pas un gros tas, tout n'est pas une soupe primitive, voilà. Tout n'est pas un plasma de particules. Il y a des choses. D'ailleurs, même dans la physique fondamentale, on s'aperçoit qu'on arrive, sous certains aspects, à ordonner les choses selon des natures ou des éléments de la nature qu'on arrive à penser. Donc ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est quand le récit de la Genèse est très beau. Hein. C'est vrai que quand on le lit, alors on dit ça s'est inspiré des mythologies babyloniennes, etc. C'est vrai un peu, bon, d'accord, mais c'est beaucoup moins, j'allais dire un gros mot, mais ça va être enregistré, donc il faut que je me compte, faut que je me surveille. C'est beaucoup moins le désordre. Oui. Parce que dans les mythologies babyloniennes, c'est des dieux qui se déchirent et tout, etc. Bon, il y a des trucs sexuels comme d'habitude, ces machins. Oh, c'est quand même un peu lourdingue, hein. C'est bien qu'aujourd'hui on vit là-dedans, mais bon, il y a déjà 3-4 000 ans, ils étaient bons. Mais c'est un peu moche, quoi. C'est un combat, le dieu du bien, le dieu du mal, pouf, et tout, un compromis, machin, et tout. C'est absolument... Dans la récit de la Genèse, il y avait une espèce de paix lumineuse, quoi. Et Dieu est bon, quoi. C'est quand même... Bon, nous, vous, ça vous paraît bateau qu'il est bon. Je croyais que c'est pas si évident que ça. Il y a une espèce de douceur. Dieu vit que c'était bon. Puis quand il a tout fait, Dieu vit que c'était très bon. Il y a plus dans l'ensemble que dans chacun des éléments. Fantastique. Et donc, parce que voilà, il fait ça avec sagesse. Il fait ça avec sagesse. Bon, c'est déjà une pensée de l'Antiquité, hein, que les choses ont une gradation. Vous voyez, vous avez la matière, vous avez la vie, vous avez la sensibilité vivante, la connaissance vivante, et vous avez la pensée spirituelle. Et il y a comme une espèce d'échelle et une sorte de continuité. Les anciens appelaient ça le principe de continuité, que ce qui est au sommet d'une des catégories atteint ce qui est en bas de l'autre. Enfin, vous voyez, quelquefois les frontières sont un peu difficiles à établir, mais c'est beau, il y a une espèce d'harmonie, et on sent bien que le sommet de tout ça, c'est l'homme. C'est vraiment la créature qui est voulue pour elle-même, et qui ordonne, qui est la clé de tout ce cosmos. C'est intéressant de voir que dans les récents progrès des 70 dernières années en science, on arrive à repérer que En fait, le réglage des éléments tout à fait fondamentaux, des paramètres de base, est extrêmement fin, à tel point que s'il ne l'était pas, la synthèse carbonique n'aurait pas lieu, et donc la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Alors certains scientifiques et philosophes appellent ça le principe anthropique, et qu'en écrivant ça comme un anthropos, comme un homme, c'est que l'univers serait au fond réglé de telle sorte qu'apparaisse quelqu'un qui puisse le connaître. Alors, il y a deux formes du principe, le fort et le faible. Enfin, c'est très passionnant. Et bon, il ne faut peut-être pas trop pousser l'argument, mais c'est quand même assez fascinant. C'est vrai que vous déréglez vraiment d'indices moins beaucoup de choses, ça ne marche plus. Parce que bon, les étoiles n'arrivent pas à se faire, etc. Ou dans les étoiles, on n'arrive pas aux molécules lourdes, etc. Mais enfin, donc, tout ça est très beau, quoi. C'est à la fois, bon, c'est une voie d'approche, hein, c'est pas pour faire de syncrétisme, mais c'est quand même extrêmement beau parce qu'il y a une sagesse, vous voyez. Les choses sont faites selon leur espèce, et Dieu fait beaucoup de créatures. Il fait pas seulement un ange pour discuter avec lui pendant l'éternité. Il fait des myriades d'anges, des milliards d'hommes, etc. Avec une profusion absolument extraordinaire. Et alors là-dedans, dans tous ces êtres qu'il crée, certains lui ressemblent encore plus que les autres. Ils ont ces images, on l'a déjà évoqué. Ils ressemblent à Dieu, non seulement en général, en gros, ils ont l'être, ils ont la vie, etc., même la connaissance, mais ils ressemblent à Dieu dans l'intelligence et la volonté, c'est-à-dire ils ressemblent à Dieu dans ce qui a permis à Dieu de faire le monde. Vous voyez, comme il y a un prof qui enseigne dans une fac, et il y a son fils qui l'écoute, bon, son fils lui ressemble. Bah, il lui ressemble, bah, normalement, plus ou moins, quoi. Bon. Mais ce que vise le prof, c'est qu'il lui ressemble dans la communication de la science, qu'il soit un jour capable de transmettre la science. Qu'il lui ressemble dans ce par quoi il est en train d'enseigner. Alors, c'est très beau que Dieu a voulu que dans le monde, il y ait des êtres qui lui ressemblent dans la connaissance intellectuelle, spirituelle, et dans l'amour, par lequel il a fait le monde. Donc, qu'ils soient comme des petits dieux avec un petit dé, si vous voulez. Voilà. Et c'est l'ange et l'homme. Donc vous voyez, il faut voir ça dans une espèce de perspective quand même très, très pleine de sagesse. Enfin, saint Thomas, qui est quelqu'un d'important dans l'Église, hein, c'est le grand théologien recommandé par l'Église, sans exclure les autres, hein, puisque, mais quand même, il est très synthétique. Et si vous trouvez mieux, je prends tout de suite, hein, mais ça fait 800 ans qu'on attend de dépasser saint Thomas, on n'a pas réussi. C'est pas en tout cas Hegel ou des autres. Enfin, ils ont essayé, là, il y a 50 ans, de remplacer saint Thomas par Hegel, voire Marx. Et vous voyez ce que ça a donné, quoi. L'état de l'Église actuellement, les intellectuels. Donc ça marche pas. Mais donc saint Thomas reprend la grande pensée grecque, quoi. Et on a reproché ça à l'Église. L'Église a repris la pensée grecque. Ratzinger ou Benoît XVI dit, il l'a pris parce que c'est vrai. C'est tout. Les Grecs ont atteint la vérité. Il y a des essences dans les choses. Il y a une sagesse. Et c'est pour ça que la pensée, même scientifique, s'est développée en Occident, peut-être plus dans beaucoup de domaines qu'ailleurs. Parce que les Grecs ont trouvé ça. Voilà. Et donc, tant mieux, on prend ça. L'Église prend tout ce qui est vrai. Donc, elle a pris cet instrument-là, comme elle a pris l'esprit religieux des Sémites avec la Bible. Et là, c'était révélé carrément. Mais donc, elle a pris cette réalité-là. Et c'est très consolant. Je pense qu'il faut beaucoup insister là-dessus, parce que je m'aperçois, avec l'expérience de l'apostolat, que pour les conversions, dans un monde qui est un peu irrationnel, c'est vrai que le fait que le christianisme se présente comme ayant une revendication de vérité, de sagesse, est très important. Extrêmement important. Il y a une conférence fondamentale de Ratzinger en l'an 2000 à la Sorbonne, ou la fin 99, qui est le fait que le christianisme est la religio vera, la religion vraie. À la différence des religions politiques qui servaient à la cohésion de l'Empire, ou des religions mythologiques qui étaient ou poétiques, si vous voulez. Mais qui est plus proche de ce qu'on appelle la religion physique, c'est une religion basée sur la réalité de la nature des choses. Donc c'est extrêmement important et c'est très original. Maintenant on est un peu habitué, mais c'était pas évident que la religion se présente comme quelque chose qui avait prétention à la vérité. Donc je pense qu'il faut maintenir ça, et c'est efficace. C'est efficace parce que c'est efficace, c'est vrai, et c'est comme ça qu'il faut faire. Et alors l'homme, vous voyez, est aussi de particulier, c'est que comme l'ange, il ressemble à Dieu dans l'esprit et dans l'amour, hein, ce qui est prodigieux, quoi. Chaque être est une image de Dieu, voilà, dans ces éléments-là. Mais en plus, il est à la jonction de tout. Si vous voulez, l'homme est le microcosme qui résume tout. Hein. Il est à la jonction de la matière et de l'esprit. Hein, il est à l'horizon des mondes, nous disent les penseurs. Hein, à l'horizon de la matière et de l'esprit. C'est pour ça qu'il est un être un peu en tension entre la matière et l'esprit. Hein, ça a beaucoup frappé Pascal, cette tension entre le corps et l'esprit. Mais c'est une réalité. Et l'homme résume le monde et il a pour but de faire monter le champ du monde vers son auteur qui est Dieu. L'homme est le liturge de l'univers, il fait il fait monter vers Dieu la reconnaissance. Cet univers est beau, merci mon Dieu. Oui, c'est ce que faisait Adam. L'univers était encore... Notre univers est toujours beau, mais enfin celui d'Adam était encore plus mieux au point, si j'ose dire, pour qu'on y soit bien, quoi, au point de vue hygrométrique et compagnie. Et donc la louange était encore plus facile. Mais à nous, même dans les difficultés, vous voyez, de remercier, c'est émouvant de voir dans les récits des goulags ou des camps de concentration, ou des laokai, les chrétiens qui remercient Dieu parce qu'ils existent, quoi. Parce qu'ils ont la vie et qu'ils verront au ciel. Ben, ça, c'est très important. Donc ça doit vraiment dominer, vous voyez, parce que pourquoi? Parce que la pensée pense à moi. La pensée avec un grand P pense à moi. Et la joie, qui est Dieu, m'aime. Ça, c'est quand même tout à fait fondamental. Vous voyez, après, vous allez déprimer tranquillement, d'accord. Il y a assez de sujets de déprime, vous trouvez ça après la récollection. Pendant la récollection, arrêtez de déprimer 5 minutes. Et la pensée pense à moi, quoi. Nobody likes me. Vous savez, dans les Peanuts, c'est des petites BD, il y a 3 bonhommes. Hein, c'est un gars qui joue au baseball. Il y en a qui like sa botte. Il dit que nobody likes me, personne ne m'aime. Puis on voit peut-être un petit phylactère avec une lampe qui s'allume. My mother likes me. Hein, ma maman, elle m'aime. Bon, et ben, tout le monde peut dire ça. C'est important, hein, parce que pour lutter contre le suicide en particulier, beaucoup de suicides viennent du fait que quelqu'un s'isole, c'est diabolique, vous voyez, pensant finalement aucun amour ne tombe sur lui, qui n'est plus l'objet d'aucun amour. Donc il faut penser aux gens qui ont envie de se suicider et dire, donnez-leur le pain d'aujourd'hui, quand on dit le Notre Père, le pain quotidien, pour qu'ils sachent que le pain de la pensée que Dieu les aime. Bon, donc voilà, l'homme a cette poste tout à fait, c'est le sommet de la création, hein. Le sommet de la création corporelle, évidemment les anges sont au-dessus, d'accord, mais ils ne sont pas dans le monde, et voilà, ils n'ont pas on verra tout à l'heure le corps que le Christ a pris de la matière, voilà. Donc l'homme est vraiment un élément tout à fait central. Il y a, je crois, un juste humanisme chrétien. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de Dieu, dit saint Irénée, c'est la vie de l'homme, pardon. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Donc la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais qui doit vivre de cette vie de louange par rapport à Dieu, et vie naturelle et surnaturelle. Donc vous voyez, je crois qu'il faut bien revenir un peu à cette idée, au-delà, si vous voulez, des dépressions de la réforme, et de luthériens et des autres, qui sont très tristes finalement, les calvinistes et tout, et puis de la postérité moderne de ces gens-là, revenir un certain optimisme, au vrai sens du terme, médiéval, quoi, celui de Sainte Jeanne d'Arc, même si c'était la fin du Moyen-Âge, de Saint Thomas et de ces gens-là. Je crois que c'est bien, parce que c'est une ressource durable, et très nourrissant, c'est nourrissant intérieurement. Voilà. Donc le sommet de la création, c'est l'homme, et Dieu l'appelle non seulement à lui rendre une juste reconnaissance naturel, hein, en le remerciant d'exister, en le priant. La religion, c'est quelque chose de naturel, hein. C'est le fait de reconnaître que, je vous ai dit, l'adoration, c'est reconnaître que Dieu existe infiniment, que j'existe petitement mais réellement, et puis m'abandonner à ça. Vous voyez, c'est pour ça que l'adoration, c'est quelque chose d'assez simple. C'est se mettre dans le réel profondément. Donc il faut s'apaiser, il faut laisser tomber un peu, laisser la sollicitude du monde, comme on dit chez les Byzantins, pour eux. Voilà, pour se mettre dans ce réel profond. Alors ça, déjà, au point de vue de la nature, mais en fait, on a plus que ça, parce que Dieu nous appelle non seulement à ça, mais il nous appelle à le voir face à face. Oui. Très, très important, la vision béatifique, hein, nous sommes appelés à ça, au ciel, et ça doit nourrir, c'est toute notre moralité, tout notre agir chrétien, et parce que la grâce, c'est comme le germe de cette vision béatifique, hein. De telle sorte que nous connaissions Dieu, non seulement comme vous... Bon, quand vous voyez le plafond de la Sixtine, ben vous connaissez Michel-Ange, mais si quelqu'un vous en parle, vous le connaissez déjà mieux. Puis si vous le voyez, ça sera beaucoup plus sympathique. Enfin, vous saurez mieux qui il est. Ben, la connaissance naturelle, c'est connaître les choses, Dieu par ses œuvres. La connaissance de foi, c'est en entendre parler par les apôtres et l'Église. Et la vision, c'est le rencontrer. Et la foi nous prépare à la vision. Donc c'est quelque chose de très extraordinaire, parce que, en fait, vous voyez, je crois que l'idée sur laquelle vous pouvez rester dans le temps libre jusqu'à la prochaine instruction, c'est peut-être le fait que Dieu nous a aimé le premier. Oui. Lui, hein, c'est ce que dit saint Jean, il nous a aimé le premier. Et saint Paul aussi reprend ça. Hein, et c'est que l'amour de Dieu, si vous voulez, va créer la bonté dans les choses, alors que notre amour à nous, Il est motivé par des qualités que nous voyons, des bienfaits. Alors donc on est attiré, on aime. Mais Dieu, lui, il ne peut pas être attiré parce qu'il y a le néant. Donc en Dieu, il crée les choses. C'est que sa méditation de saint Thomas, dans la somme de théologie, l'amour de Dieu crée et infuse la bonté dans les choses. Donc quand on pense à Dieu, on doit en penser comme à une source d'une cascade de biens qui viennent sur nous. L'être, la vie, la connaissance, l'esprit et la grâce. Et dans la grâce, on va rentrer dans sa famille et on va revenir comme ce matin là, l'enfant, le prodigue qui revient chez lui, on va rentrer dans la patrie. Donc c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Saint Pierre dit, nous sommes dans sa deuxième épître, nous sommes devenus participants de la divine nature. Vous voyez. Je crois que c'est un élément tout à fait important. Le christianisme n'est pas d'abord un moralisme. Je suis pour la morale, les gars, attention. Pas que je prêche contre les 10 commandements. Je suis à fond pour, bon, et même pour des tas de choses comme ça, les conseils qui nous permettent de... Mais fondamentalement, pourquoi? Parce qu'il y a le mystère derrière. Parce qu'on est divinisé par la grâce. Je crois que c'est extrêmement fort. Si on ne pense pas à la divinisation par la grâce, on ne pourra jamais appliquer les commandements. Et je pense qu'une des raisons des chutes et des reculs, c'est qu'on n'y pense pas assez. Et pour y penser, c'est faire oraison, concrètement. C'est faire des retraites. Il faut faire une retraite, les gars. Personne n'a fait une retraite de 4 ou 5 jours. Nous, c'est 4 jours, la retraite du Rosaire. Concurrence déloyale. 5 jours pour les exercices, la retraite de Saint-François de Sales, les retraites sur Barou. Enfin, il y a partout où vous pouvez faire des retraites. Faites des retraites, quoi. Enfin, au moins une fois ou plusieurs fois. Moi, j'irai tous les 3 ans, actuellement. Il faut faire des retraites, puis il faut faire en raison. Il faut se caler à un moment, on s'arrête devant une église, on rentre pour se mettre dans le réel, et le Saint-Esprit peut nous travailler là, et recevoir l'influx des dons du Saint-Esprit. Il y a beaucoup, je vais vous dire, à mon expérience de 35 ans de sacerdoce, il y a beaucoup de gens qui reculent, qui abandonnent, parce qu'ils croient que ça, c'est dû pour les bonnes sœurs qui bouffent 3 pépins de citron les jours de fête, mais que nous, on est des hommes d'action, et que les gars, nous, moi, je suis pas bon en religion, ben, je peux vous consoler moi non plus, les gars. Donc, c'est fait pour tout le monde, c'est pas uniquement pour les cuculs à praline, ou pour les enfants de cœur. La religion, c'est même pour les mecs plutôt velus, ou actifs, ou aiguilleux, ou politico, karatéka, bidule, machin, astrophysicien, tout ce que vous voulez, qui ont autre chose à faire. Ben oui, mais justement, c'est pour ça que c'est pas un truc pour... Il faut arrêter d'avoir de ce modèle un peu sopo et féminin, au mauvais sens du terme, oulala, de la religion, quoi. C'est les adolescents foutent le camp. Si c'est un truc, ben les mecs, ils partent les néo-païens ou voir sur l'islam, parce que là, au moins, Dieu est braqué dans l'islam, quoi. Hein? Mais attendez, c'est tout ça, c'est pourquoi pas, c'est dans les richesses que nous avons. Et pour ça, c'est très important de penser que la vie chrétienne a cet aspect mystique, si vous voulez, des dons du Saint-Esprit, qui est pour tout le monde. Tous les chrétiens en état de grâce doivent vivre sous l'influence des dons du Saint-Esprit. Donc pour ça, il faut leur laisser le temps de jouer. Mais on ne le prend pas suffisamment, oui. Je crois que beaucoup de gens en purgatoire se taperont quelques milliards d'années de supplément, là. Enfin, je ne sais pas trop comment vous dire. Je ne sais pas où vous avez trompé, quand même. Parce qu'ils sont... Mais pose-toi 5 minutes. Arrête ton truc. Mais surtout aujourd'hui, alors c'est le cyclotron permanent, naturel, virtuel et sur-virtuel, etc. Arrête ton truc. Une journée sans virtuel et sans SMS, ça te changera peut-être l'existence, quoi. Fais un goom. Fais un truc. Arrête, quoi. 5 minutes, mais arrête en pensant à Dieu, quoi. En pensant, voilà. Mais je crois qu'il faut partir de choses assez concrètes, sinon, moi je peux vous baratiner pendant des heures sur la 7e demeure de Thérèse d'Avila, mais si vous prenez pas les moyens de l'incarner dans votre vie, c'est zéro, quoi. Enfin, c'est pas zéro tout à fait, parce que vous aurez du remords, et peut-être que la prochaine récollection, prochaine par un autre prêtre, du coup, vous ferez une retraite, ou vous ferez un quart d'heure de raison, je sais pas. Mais c'est très très concret, si vous voulez. Et en plus, je crois que ce qui peut nous aider, quand même, c'est un peu, je dirais, la noblesse, quoi. Dieu fait appel au caractère chevaleresque de l'esprit, dit Romano Gardelli. T'es pas obligé, mais justement, c'est la vérité. Dieu est dans une brise légère, enfin, c'est des choses délicates. Donc soyons fidèles à ces choses-là, et ça nous permettra d'aller vers ce grand mystère infini. Qui est Dieu? Comment est-ce que je le connais? Qu'est-ce qu'il fait? Et quel est le sommet de la création? Ben, c'est nous les hommes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... On va avoir besoin de l'incarnation pour en prendre encore plus conscience, mais c'est quelque chose de tout à fait merveilleux.